Chapitre 2 La pente rapide. Parmi les nombreuses imprudences dont Horatio Paget, autrefois cornette dans un régiment de cavalerie innommé, et toujours capitaine dans le monde, s'était rendu coupable dans sa longue carrière, il n'y en avait pas qu'il se reprochât plus amèrement qu'un mariage fou qu'il avait contracté, étant déjà d'un certain âge. Ce ne fut que lorsqu'il eut abandonné la dernière chance que l'indulgence de la fortune lui avait accordée, que le petit maître de la Régence, membre à une certaine époque du Beefsteak Club, l'homme qui, dès sa plus tendre jeunesse, avait joué au piquet dans les salons dorés de Georgina Devonshire, se trouva couché sur un lit de malade dans un des garnis borgnes de Londres, et plus près de la mort qu'il ne s'y était trouvé dans sa courte carrière militaire. Il eut ce jour-là une fière peur, une de ces peurs auxquelles les gens de sa trempe sont particulièrement sujets. Il sentit qu'il allait choir dans l'océan de l'éternité, et cela l'ennuya dans de très grandes proportions. En plus de son chagrin et de son ennui, il ouvrit tout grand son cœur à la gratitude. Il se cramponna à une main délicate et bienfaisante qui le retenait de son mieux à la vie, et qui se trouvait là tout exprès à côté de lui. C'était une douce jeune femme. Dieu seul sait avec quelle souplesse, quelle dextérité elle administrait les médicaments, les bouillons et tout ce qui s'ensuit. Elle fut pour ce libertin moribond une esclave dévouée, infatigable. Il n'en fallait pas moins pour le sauver. « Ne me remerciez pas, dit le docteur, quand son faible malade crut devoir pousser quelques bruyantes protestations de gratitude, sachant très bien que ce serait la seule monnaie avec laquelle l'homme de l'art serait payé. Remerciez cette jeune femme si votre cœur a besoin de ses penchers, car sans elle, vous ne seriez plus en état d'exprimer votre gratitude. Et si jamais vous étiez repris d'une seconde inflammation des poumons, vous pourriez demander au ciel de vous envoyer une autre garde-malade semblable, en admettant qu'il soit possible de la trouver. » Après cet exorde, le rude et brave médecin s'éloigna, laissant Horatio seul avec la femme qui lui avait sauvé la vie. Ce n'était que la fille de sa logeuse. Elle n'était pas riche, cette logeuse, et n'avait point spéculé sur les extravagances des riches célibataires. C'était une honnête veuve qui vivait dans une petite rue d'un quartier éloigné et qui louait un petit salon maigrement meublé et une chambre à coucher, plus maigrement meublée encore, à tout gentilhomme que des revers de fortune pouvaient conduire dans ce quartier désert. Le capitaine Paget était tombé bien bas dans la vie lorsqu'il avait pris possession de ce misérable réduit et s'était reposé dans les nippes de la veuve. Il devait y avoir dans la vie d'un tel homme un lugubre et vide intervalle qui séparait le jour où il avait dépensé ses derniers sous de l'heure à laquelle il commença délibérément à peser sur la bourse des autres. Ce fut pendant cet intervalle désespéré que Paget était venu s'établir chez la veuve. Mais bien qu'il demeurât dans ces parages éloignés de la City, il ne pouvait supporter l'existence de l'autre côté de l'eau. Il sortait de sa demeure chaque jour pour gagner les brillants quartiers, resplendissant de linge blanc et de gants frais, avec un paletot irréprochable et des bottes vernies. La garde-robe a son soleil de l'Inde, et l'éclat d'un habit fait par un grand tailleur peut se comparer à l'éclat du soleil des tropiques. Il est glorieux jusqu'à la fin et tombe en un instant. La garde-robe du capitaine était à cette époque à son soleil de l'Inde. Et lorsqu'il s'aperçut combien le macadam de Bond Street était près de la plante de ses pieds, il ne put réprimer un mouvement d'admiration pour la belle contenance de ses bottes dans leur décadence même. Il marcha dans le West End de longues et tristes heures pendant la période de cette décadence. Il essaya de vivre de la façon d'un honnête gentleman, en empruntant de l'argent à ses amis ou en escomptant un billet de complaisance, obtenu de quelque innocent trompé par les brillantes allures et la volubilité du capitaine. Il passait ses journées dans les antichambres et les salons d'attente des clubs dont il avait été membre autrefois. Il faisait de longues courses, laissant de petits billets pour des hommes qu'il ne trouvait pas chez eux et qui, pendant qu'ils griffonnaient, retenaient leur souffle pour ne pas trahir leur présence. Ceux qui avaient été les amis les plus intimes du capitaine Paget semblaient avoir résolu simultanément de passer leur vie hors de chez eux. C'est du moins ce qu'il parut au capitaine. Leur domestique était affligé d'une incertitude étrange et chronique quant à leurs faits et gestes. Quelle que fût la porte à laquelle il sonna, il semblait également douteux que le maître pût rentrer pour dîner ou qu'il dût rentrer à une heure quelconque de la journée du lendemain ou jusqu'à la fin de la semaine. Rentrerait-il même jamais ? Lorsque le capitaine, à la brune, ayant battu le pavé, soutenu par le faible espoir d'être admis dans une maison amie, apercevait une lueur à travers la porte de la salle à manger, entendait déboucher les bouteilles et le choc des verres et de l'argenterie, la réponse était toujours la même. Monsieur n'est pas chez lui et ne doit pas rentrer. Désormais, tous les gens sérieux devaient être sortis pour le capitaine. Mais de temps en temps, dans les clubs, il rencontrait quelques jeunes hommes qui, n'ayant pas de femme au logis pour veiller sur sa bourse et se lamenter sur un billet de 5 livres mal dépensé, avaient encore pitié du prodigue tombé et croyaient ou feignaient de croire à son histoire d'embarras d'argent momentané. Ces jours-là, le capitaine dînait magnifiquement dans quelques restaurants français, prenait une demi-bouteille de chablis avec des huîtres et se réchauffait avec du chambertin qu'on lui apportait dans une bouteille couverte de poussière et de toile d'araignée, étendue dans un panier d'osier, comme il convient à tout vin de race noble. Mais dans ces derniers temps, des rayons de soleil bienfaisants avaient rarement illuminé le triste cours de la vie du capitaine. Les désenchantements, les ennuis s'étaient installés comme à demeure dans son existence. Le succès n'y montrait plus sa face joyeuse qu'à de très rares intervalles. Lorsqu'il traversait la rivière pour gagner l'ouest de la ville, il avait coutume de flâner sur le pont de Waterloo et de regarder mélancoliquement couler l'eau. Il se demandait si le fleuve se trouverait là, près de lui, à sa disposition, lorsque, protégé par la nuit et ayant donné son dernier sou pour le péage du pont, il ne connaîtrait plus le besoin d'une monnaie terrestre. Un jour, j'ai vu un gaillard à la morgue, un pauvre malheureux qui s'était noyé. Grand Dieu, qu'il était horrible à voir! Si au moins on était reconnu, on serait enterré proprement et mourir pour mourir, autant mourir ainsi qu'autrement. Mais être trouvé dans cet état et rester couché dans la cabane des asphyxiés au bord de la rivière, avec un écriteau pourri, avoir pour tout linceul du limon, de la vase et du fumier autour de soi, attendant qu'un homme passe et vous reconnaisse. Et qui sait, un homme mort sent peut-être ces choses-là. L'automne qui venait de finir avait été humide, triste, pluvieux. Le capitaine, bien que très intelligent à certains égards, n'était pas un homme chez lequel les choses de l'esprit tenaient une très grande place. Quand il se trouva prisonnier dans le salon mesquin de Mrs. Kepp, il eut une impression très pénible. Quand il avait lu plusieurs pages du journal qu'il empruntait et fait telle ou telle réflexion sur l'article de fond, ou grognait à l'annonce de quelque riche mariage fait par un de ses anciens amis, ou rit de bon cœur à l'annonce de la faillite d'un autre de ses amis, après avoir tisonné le feu 12 fois avec impatience en 1 heure, jurant après les pincettes et le mauvais charbon à chaque fois, après avoir fumé son dernier cigare et verni ses bottes de prédilection, regardé à la fenêtre, et après s'être miré mélancoliquement dans le petit miroir placé sur la cheminée, le capitaine pouvait constater que ses ressources intellectuelles étaient épuisées. Alors, une colère nerveuse s'emparait de lui. En dépit de la pluie torrentielle, des nuages noirs qui chargeaient le ciel, il jetait ses pantoufles dans un coin, le coin le plus éloigné du salon de Mrs. Kepp, qui se trouvait, hélas, tout près du fauteuil du capitaine. Il mettait les plus fortes de ses bottes vernies, qui ne l'était plus guère, il boutonnait son plus beau par-dessus, ajustait son chapeau devant sa glace et partait, parapluie en main, faire son tour des beaux quartiers. Toujours vers l'ouest, à travers la pluie et l'orage, il retournait vers les lieux où s'était écoulée sa jeunesse et ses beaux jours, errant et déclassé, pour revoir la lueur rougeâtre des feux brillants des clubs se refléter sur les vitres, pour revoir les lampes des grands salons de lecture s'illuminer de bonheur au crépuscule de l'automne, et admirer la douce clarté qui se répandait sur les riches reliures des livres, pour se perdre dans le rouge sombre des tentures de l'appartement. Pour cette pauvre créature mondaine, l'angoisse d'être exilée de ses palais était plus amère que la souffrance de l'ange déchu. C'était l'époque de l'année la plus triste, et il n'y avait pas beaucoup d'élus dans ces somptueux salons de lecture, où les lampes, avec leurs abat-jours, jetaient leurs pâles et nets rayons sur la splendeur du sanctuaire. Le capitaine Paget pouvait donc errer ainsi sur le théâtre de sa jeunesse envolée, sans craindre beaucoup les reconnaissances. Mais ses excursions devinrent de jour en jour plus inutiles. Il commença à comprendre pourquoi les gens n'étaient jamais chez eux lorsqu'il frappait à leur porte et faisait entendre son élégant coup de marteau. Il ne put endurer plus longtemps l'humiliation de semblables rebuffades. Il vit bien que les domestiques connaissaient le but de ses visites aussi bien que leur maître, et avaient leur réponse toute faite à quelque heure du jour qu'il se présenta. Il cessa d'assiéger les portes de ses anciennes connaissances. Le rideau dont il avait couvert sa vie de folie était percé à jour. Il sentit qu'il ne lui restait plus qu'à mourir. Le capitaine prit froid un soir qu'il s'en retournait chez lui. Ses habits ruisselaient et ses belles bottes vernies n'étaient plus qu'une éponge. Le froid qu'il avait pris engendra une violente fluxion de poitrine. Ce fut alors qu'une femme le prit sous sa protection et se mit en tête de le sauver, offrant à ce viveur sur la faim son exquise tendresse. L'ange qui consola le vagabond désespéré et accablé n'était qu'une pauvre fille ignorante et de basse extraction. Elle se nommait Marianne Kep. Elle servait le capitaine depuis qu'il demeurait chez sa mère. Mais il n'avait pas pris garde à elle plus qu'aux filles de couleur qui le servaient lorsqu'il était dans l'Inde avec son régiment. Paget avait été un coureur, un duelliste, un réprouvé dans ses beaux jours passés. Mais il n'avait jamais été très libertin, et il ne savait pas que la jeune fille qui lui apportait son déjeuner et fléchissait sous le poids du seau à charbon qu'elle déposait dans sa chambre était l'une des plus jolies filles qu'on pût voir. Le capitaine était tellement aristocrate que pour lui, la beauté, sans l'éclat des diamants et la richesse des atours, n'était plus la beauté. Il attendait pour la reconnaître que le domestique l'eût annoncée par son nom et que le sourd murmure d'approbation d'une société de gens bien élevés eût acclamé son entrée avant de fléchir le genou devant elle. Les beautés dont il se souvenait avaient reçu leurs lettres de créance des mains du prince régent et s'étaient succédées dans les hôtels splendides des Devonshire et des Hertford. Comment ce célibataire fané et râpé aurait-il su que cette jeune fille, vêtue d'une pauvre robe de coton, avec ses cheveux rejetés en arrière, son pâle visage, ses joues barbouillées de taches noires, était ravissante. Ce ne fut que pendant les heures monotones de sa convalescence, alors qu'il était couché sur le pauvre petit canapé usé du salon de Mrs. Kep, canapé qui était à peine plus fané, plus faible et plus fini que lui. Ce fut alors seulement qu'il découvrit la grâce de ce visage qui s'était si souvent penché vers lui dans ses accès de délire. « Savez-vous que je vous prenais pour toutes sortes de gens, ma chère ? » dit-il à la fille de sa logeuse. Celle-ci travaillait à une petite table, tandis que sa mère sommeillait dans un coin, un bas de laine sur son bras et une paire de lunettes sur son respectable nez. Mrs. Kep et sa fille avaient contracté l'habitude de passer leur soirée dans l'appartement de leur locataire, le malade ayant déclaré à plusieurs reprises que pour lui, c'était le comble de l'horreur d'être laissé seul. « Oui, je vous prenais pour toutes sortes de gens, Marianne, » poursuivit le capitaine d'un air rêveur. « Parfois, je vous prenais pour la comtesse de Jersey, et je voyais le sourire qu'elle eut la première fois que je lui fus présenté. J'étais bien jeune au beau temps de la belle Jersey. Puis il y avait eu cet autre avec qui je prenais le thé à Brighton. Oh Dieu, comme la vie semble triste de nos jours. Le roi est mort et tout a changé, tout, tout. Je suis un homme très vieux, Marianne. Il avait 52 ans, mais il sentait qu'il était un vieillard. Il n'avait plus rien et avait survécu à ses meilleurs amis. Les protecteurs étaient morts et partis, et les hommes qu'il avait patronnés lui fermaient leurs portes les mauvais jours venus. Il y avait longtemps qu'il avait tourné le dos à toute sa famille. Il n'avait plus personne pour lui tendre la main. Avoir survécu à tout plaisir et à toute affection est l'amertume la plus grande de la vieillesse, et Horatio éprouvait cette amertume dans toute sa cruauté. Mais Marianne ne pouvait le trouver vieux. À ses yeux, il était et serait toujours l'élégance, la distinction faite homme. C'était le premier homme du monde qu'elle eût vu. Mrs. Kepp avait donné abri à d'autres locataires qui se faisaient passer pour des gentilshommes. Ils avaient affecté de grandes façons, l'avaient pris de très haut avec la veuve et sa fille. Mais quelle lourdeur, quelle gaucherie, quelle strass comparée à ce pur diamant. Marianne, avant que le seuil de l'humble habitation eût été honoré des pas d'Horatio, avait déjà vu des bottes vernies, mais comme elles étaient grossières et vulgaires, et quels pieds de rustre avaient ceux qui les portaient. Les mains fines et blanches de Pagé, avec son cou de pied cambré, la courbe patricienne de son nez aquilin, la courbe parfaite de son vêtement, la grâce souple de son langage, tout cela avait troublé le petit cœur tendre de Marianne, et d'autant mieux que son héros était malheureux, abandonné. Qu'un pareil homme fût délaissé semblait une destinée injuste et cruelle aux yeux de la douce fillette. Alors, quand la maladie était venue le saisir, le confiant à sa tendresse et à sa compassion, alors l'innocente fille prodigua tous les trésors de son cœur au gentilhomme ruiné. Elle ne pensait ni à une récompense, ni à un salaire. Elle savait que le locataire de sa mère était dans une misère complète et que ses loyers avaient été payés de moins en moins régulièrement. Elle n'avait pas conscience de la profondeur du sentiment qui avait fait d'elle une admirable garde-malade, car sa vie était très remplie par le travail et elle n'avait ni le temps ni le goût d'approfondir ses sentiments. Elle protesta donc énergiquement quand le capitaine parla de son âge. « Quelle drôle d'idée qu'un homme se croit vieux à 50 ans, » dit-elle. Horatio frémit en entendant l'accent et le mauvais anglais de cette jolie fille, bien qu'il sortisse des lèvres qui lui avaient prodigué tant de consolation. « Vous avez encore bien des années devant vous, monsieur, s'il plaît au bon Dieu, » ajouta-t-elle avec piété. « Et je ne doute pas que vous ne trouviez encore de bons amis pour vous venir en aide. » Le capitaine secoua tristement la tête. « Ah, vous parlez comme si vous alliez me dire la bonne aventure avec un jeu de cartes. Non, ma fille, je n'aurai qu'un ami sur lequel je puisse compter, c'est moi. J'ai dépensé la fortune que m'avait laissée mon père. J'ai dépensé le prix de ma commission. Je me suis défait de tous les objets de valeur que je possédais. Pour dire le mot vulgaire, je suis décavé, Marianne. » Mais d'autres hommes ont dépensé toutes leurs pièces de 6 pence et n'en sont pas moins arrivés à vivre tranquille pendant plus de 50 ans après. J'ose dire que je pourrais le faire aussi. Si le vent est dur pour l'agneau tondu, je crois que les vautours et les hiboux savent se tirer d'affaire. J'ai tenté ma chance comme agneau tondu, et la tempête m'a été très sévère. J'en ai assez, et je vais me joindre aux vautours. Marianne regardait avec un profond étonnement le locataire de sa mère. Elle avait l'intuition qu'il venait de proférer une sorte de blasphème. Mais elle était trop naïve et innocente pour suivre la pensée de cet homme. « Oh, je vous en prie, ne parlez pas d'une manière aussi extravagante, monsieur, » supplia-t-elle. « Cela me rend trop malheureuse de vous entendre parler ainsi. Pourquoi mes paroles vous rendraient-elles malheureuse, Marianne ?» Quelque chose dans cette interrogation mit le pâle visage de la jeune fille en feu. Elle fut obligée de se pencher sur son ouvrage pour cacher cette rougeur intempestive. Elle ignorait que le ton du capitaine présageait une demande sérieuse. Elle ne savait pas que la grande crise de sa vie était près de s'accomplir. Horatio était déterminé à se sacrifier. Il devait la vie au dévouement de cette fille, et il eût été moins qu'un homme s'il ne s'était pas senti remué par un sentiment de gratitude. Cette jeune femme était dévouée et l'aimait plus sincèrement qu'il ne se souvenait avoir jamais été aimé. Il vit aussi qu'elle était belle. Le capitaine eût pu avoir de la reconnaissance pour une femme laide, mais jamais il n'aurait pensé à une femme laide comme il pensait à Marianne. Avant que la jeune fille eût pu relever son visage de son ouvrage, Horatio lui avait demandé d'être sa femme. L'émotion coupa la voix de la pauvre enfant lorsqu'elle voulut répondre. Elle fit un effort sur elle-même, courut au canapé sur lequel il était couché, et d'un seul mouvement, elle tomba à genoux devant le capitaine. Une mendiante choisie pour femme par un roi n'eût pas été plus émerveillée, plus profondément troublée que ne le fut cette candide et gracieuse créature. « Moi, je serai votre femme. Oh, en vérité, monsieur, ce n'est pas là ce que vous avez voulu dire. Mais si, vraiment, je le désire du fond du cœur et de toute mon âme, ma chère. Je ne vous offre pas là une grande chance, Marianne, car je suis à peu près aussi bas dans la vie qu'un homme puisse l'être. Mais je ne pense pas être toujours pauvre. Allons, cher enfant, ne pleurez pas, dit-il avec un peu d'impatience, car la jeune fille avait couvert son visage de ses mains et les pleurs coulaient à travers ses doigts. Voyons, levez la tête et dites-moi si vous voulez, oui ou non, accepter pour votre mari un vieux garçon fané et passé. Paget avait admiré bien des femmes dans les brillantes années de sa jeunesse. Souvent il s'était cru très amoureux, mais il est douteux qu'une puissante passion ait jamais dominé réellement son cœur qui, froid naturellement, ne s'animait qu'au souffle des passions égoïstes. Horatio, de très bonne heure, s'était prosterné devant une idole et avait découvert une religion. L'idole, c'était Horatio, la religion, c'était son plaisir. Il aurait pu être flatté de l'émotion qu'il inspirait à Miss Kepp, mais il était malade, maussade. De plus, toute sa vie, il avait eu horreur des femmes qui pleurent. Elle l'ennuya. « Est-ce oui ou non, ma chère ? » demanda-t-il, un peu plus contrarié. Marianne leva devant lui ses yeux pleins de larmes et, d'un air effrayé, « Oh oui, monsieur ! Si je puis vous être bonne à quelque chose, vous soignez quand vous serez malade et travaillez pour vous jusqu'à ce que mes doigts soient usés jusqu'aux os. » Elle tordait ses mains. Elle se voyait déjà travaillant pour son héros, le gentleman dont les bottes vernies avaient été comme la promesse d'un monde supérieur, plus beau 100 fois que celui qu'elle habitait. Mais le capitaine modéra ses transports par un geste doux de ses blanches mains amaigries. « Voilà qui est dit, ma belle, » dit-il d'un ton languissant. « Je ne suis pas encore très fort, et tout ce qui ressemble à de l'embarras m'est on ne peut plus pénible. Ah, ma pauvre enfant, si vous aviez vu un dîner chez le marquis de Hertford, vous auriez pu vous rendre compte de ce qu'on pouvait faire sans bruit et sans embarras. Mais je ne vous parle là que de choses que vous ne comprenez pas. Vous serez ma femme et une bonne, obligeante et obéissante petite femme, je n'en doute pas. Voilà qui est arrangé. Quant à ce qui est de travailler pour moi, mon cher amour, tout ce que ces jolies petites mains pourraient faire pour moi, ce serait de me gagner un cigare dans la journée. Or, il est rare que je n'en fume pas 6 par jour. Donc, vous voyez que tout cela n'est que du sentiment dépourvu de sens commun, c'est de l'enfantillage. « Maintenant, vous pouvez éveiller votre chère mère, car j'ai besoin de me reposer et je ne puis fermer l'œil tant que cette brave dame est là à ronfler d'une si effroyable façon. Mais pas un mot de nos petits engagements, Marianne, jusqu'à ce que vous soyez seule avec votre mère. » Là-dessus, le capitaine étendit son mouchoir sur son visage et se laissa aller au sommeil. Cette petite scène l'avait fatiguée, bien qu'elle eût été jouée si tranquillement que le sommeil de Mrs. Kepp n'en avait pas été troublé. Sa fille la réveilla peu de temps après, et elle reprit son travail à l'aiguille, tandis que Marianne prépara le thé pour son bien-aimé dormeur. Les tasses et les soucoupes firent plus de bruit ce soir-là qu'elles n'avaient coutume. Marianne était toujours très troublée. Il semblait que les mots de son cœur se communiquassent au bout de ses doigts, sous l'indécision desquels la porcelaine résonnait. Elle serait la femme d'un gentilhomme, et quel gentilhomme! Quand on pense que des misères, des riens, comme un habit cousu par un des premiers tailleurs de West End et des bottes faites par un des premiers bottiers des mêmes parages, peuvent arriver à faire éclore cette fleur exquise de tendresse, de dévouement qui s'appelle l'amour d'une femme. C'est avec raison qu'un philosophe moderne a dit que l'histoire du monde n'est qu'une question de vieux habits. Marianne avait commencé à admirer les confections de messieurs tels et tels, et maintenant elle était prête à engager sa vie à l'homme qui les portait. Miss Kepp obéit au désir de son amoureux, et ce ne fut que le jour suivant, lorsqu'elle fut seule avec sa mère dans la petite cuisine au-dessous de l'appartement du capitaine, qu'elle informa cette digne femme de l'honneur qui lui était réservé. Pour Marianne commença alors la longue série des contrariétés auxquelles la condamnait son attachement pour un homme sans le sou. La veuve était une femme qui connaissait la vie. Elle s'obstina à ne pas découvrir les avantages que pouvait présenter une union avec un homme de 50 ans ruiné. « Comment te fera-t-il vivre? Je serai bien heureuse de le savoir, » disait Mrs. Kepp, pendant que la jeune fille se tenait rougissante devant elle. « Puisqu'il ne peut même pas me payer régulièrement. »« Ne parle pas ainsi, ma mère !» s'écria la jeune fille toute frémissante, qui ne se rendait pas aux arguments pratiques de sa mère. « Tu parles comme si mon unique préoccupation était de me couvrir de chiffons et de bien me nourrir. D'ailleurs, le capitaine ne sera pas toujours pauvre. Il m'a dit cela hier soir quand... « Il t'a dit cela !» répéta l'honnête veuve avec une moue dédaigneuse. « Est-ce qu'il ne m'a pas raconté bien souvent que j'aurais mes loyers régulièrement? Est-ce que je ne le garde pas par pure charité? Une pauvre veuve comme moi, qui pourrait bien avant peu avoir besoin de charité elle-même. Et si cela n'avait pas été pour tes pleurnicheries, il y a 3 semaines qu'il serait dehors, quand le médecin a déclaré qu'il était assez bien pour qu'on le changeât de place. Car tu sais que je ne l'aime pas, cet homme. Et tu l'aurais mis dehors, mère, pour l'exposer à mourir dans la rue, s'écria Marianne. Je ne te croyais pas le cœur si dur. Dès lors, il y eut des discussions continuelles entre la mère et la fille, qui jusque-là avait été la plus soumise des enfants. Les fanatiques ne pardonnent jamais aux insensés qui refusent de croire à la divinité de leur Dieu. Et les femmes qui aiment sont des fanatiques. Enfin, après bien des scènes, après bien des mots durs, cruels, amers, échangés entre les deux femmes, après bien des pleurs, des insomnies, des misères, Marianne, un beau matin, pendant que sa mère était au marché, s'enfuit avec le capitaine. Miss Kepp laissa une petite lettre piteuse pour sa mère, remplie de fautes d'orthographe, mais pleine de tendresse et de bons sentiments. Elle suppliait sa mère de lui pardonner, elle avait beaucoup lutté, son amour avait été le plus fort, etc. « Ô mère, si tu savais combien il est noble, tu ne pourrais pas m'en vouloir de l'aimer comme je le fais, et nous viendrons te retrouver après notre mariage, et tu seras payée de ce qu'on te doit jusqu'au dernier sou. » Après avoir écrit cette épître dans la cuisine avec une décision que le capitaine jugea peut-être excessive, Marianne mit sa plus belle robe, sauta en fiacre et, en compagnie d'Horatio, dit adieu à la maison maternelle. Elle aurait bien voulu emporter une petite caisse de bois blanc où elle rangeait sa garde-robe, mais après l'avoir examinée, le capitaine lui dit qu'une boîte de cette taille le compromettrait partout. « Vous pouvez vous passer quelque temps de bagages, cher enfant, mais gardez-vous bien d'emporter celui-ci. » La jeune fille obéit sans comprendre. Elle ne comprenait pas souvent ce que son amant voulait dire, et il ne paraissait pas tenir beaucoup à ce qu'elle le comprît. Il lui parlait plutôt du ton dont on parle à un ami fidèle, quand cet ami est un chien. le capitaine dénicha de suite une paroisse où le nouveau code du mariage lui permettait de s'unir à Miss Kep sans façon, en présence du cocher de fiacre et d'une femme qui balayait le devant de la porte. Le capitaine subit cette courte cérémonie aussi tranquillement que s'il se fût agi de prendre un abonnement à la Compagnie des Eaux. Les pleurs de la pauvre Mary Ann qui coulait sous son petit voile noir l'exaspérèrent. Il avait oublié l'anneau nuptial. C'est toujours d'un mauvais augure, un futur qui oublie ce simple anneau d'or, symbole de l'union éternelle. Mais il ôta une petite bague en onyx de son doigt pour la passer au doigt plus grossier de son épouse. C'était le dernier, absolument le dernier de ses bijoux. Des brocanteurs imbéciles et peu versés dans les choses de l'art antique avaient jugé la bague sans valeur. Une personne superstitieuse eût pu s'effrayer en voyant le sujet gravé sur la bague du capitaine. Elle représentait la femme de Néron, qui ne fut pas heureuse le moins du monde. Mais comme Marianne, pas plus que le clerc, le cocher ou la brave femme au balai n'avaient jamais entendu parler de Néron, et que de plus Paget était trop indifférent pour être superstitieux, personne n'en tira de conclusion fâcheuse, et Marianne partit gaillardement avec le gentilhomme. Elle était enchantée, très fière, et son bonheur eût été parfait si, de temps en temps, l'image de sa mère indignée n'était venue en troubler la quiétude. Le capitaine conduisit sa femme dans un charmant appartement dans Mayfair, et elle fut surprise de l'entendre dire à la propriétaire que lui et sa femme arrivaient du comté de Devon et qu'ils avaient l'intention de passer une semaine ou deux à Londres en passant avant de se rendre sur le continent. « Ma femme a passé la plus grande partie de sa vie à la campagne, » expliqua le capitaine. « Il faut donc que je lui fasse voir un peu Londres, malgré cet horrible temps. » « Mais le diable s'en mêle, mon domestique n'a pas compris mes ordres, et il est parti tout droit pour Paris avec mes bagages. Nous pourrons cependant réparer tout cela demain. » Rien ne peut rendre les mines courtoises et humbles avec lesquelles la propriétaire accueillit les paroles du capitaine. Celui-ci lui avait d'ailleurs offert des répondants, et les gens qu'il avait cités étaient tout bonnement les premiers du pays. Le capitaine connaissait assez la nature humaine pour savoir que si les répondants en imposent souvent, il est très rare qu'on aille les chercher. À dater de ce jour jusqu'à l'heure de sa mort, Mary Ann n'entendit que très rarement son mari proférer une chose qui fût vraie. Il s'était rangé parmi les bêtes de proie. C'était un gentilhomme pauvre qui s'était couché malade chez Mrs. Kep. Mais c'était un bandit, un homme prêt à tout, une sorte de fauve qui s'était levé de son lit de douleur. Alors commença une vie nouvelle, faite de fraudes, de guet-apens, d'expédients honteux. Comme le loup-cervier rôde autour des bergeries, prêt à enfoncer ses griffes et ses crocs dans les chairs des pauvres agneaux sans défense, ainsi cet aventurier prit ses mesures et ses plans. Ses douces façons le servirent singulièrement dans l'exploitation qu'il fit de l'imprévoyance, de l'imprudence humaine. Désormais, Horatio ne vécut plus qu'aux dépens de la faiblesse de ses semblables. Il y avait certainement de mauvais jours quand les moutons étaient lents à venir se prendre au piège. C'était chose assez commune pour le capitaine de tomber des splendeurs de Mayfair ou de Saint James. Mais jamais il ne retourna à Tulliver's Terrace. Bien que Mary Ann lui eût souvent demandé d'un ton suppliant de bien vouloir acquitter sa dette envers sa mère. Quand son mari était en fond, il lui prenait la tête entre ses mains, la caressait et lui répondait qu'il verrait. Si, au contraire, sa bourse était maigrement garnie, il lui disait avec mauvaise humeur qu'il avait mieux à faire que de s'occuper des prétendus droits de sa mère, quand il ne savait pas lui-même comment il se tirerait d'affaire. Le billet de Mrs. Kep ne fut jamais payé, et jamais Mary Ann ne put revoir sa mère. Mrs. Paget était une créature douce, aimante, mais essentiellement craintive et molle. Elle ne pouvait se résoudre à affronter les reproches de sa mère. Elle redoutait ses questions. Son beau rêve, hélas, avait été bien court. Elle trouvait que sa mère avait eu raison, qu'elle payait bien cher la pauvre gloire d'avoir épousé Paget. Elle connut peu le bonheur durant les quelques années de sa vie conjugale. Être menée d'un endroit à un autre, dîner aujourd'hui dans Mayfair et demain dans un restaurant à un shilling, porter de beaux habits qui n'ont pas été payés et les ôter quand le prêteur l'exige pour sa garantie, savoir que son existence était un mensonge, un piège perpétuel, sentir à ses côtés grandir le mépris. Voilà le bilan d'une femme dont le mari vit des ressources de son intelligence. Et par-dessus toutes ces misères, Mrs. Paget avait à endurer les caprices du caractère d'Horatio. Quand les victimes tombaient dans le piège et semblaient de bonne prise, le capitaine était très bon pour sa femme, à sa manière, c'est-à-dire qu'il la sortait et, après lui avoir fait un sermon sur le chapeau fané qu'elle portait et qui l'agaçait, il lui en achetait un autre. Puis il lui offrait un dîner qui la rendait malade, après quoi il la renvoyait chez elle en fiacre, tandis qu'il allait finir la soirée dans une société où ses goûts étaient plus aisément satisfaits. Mais quand la chasse était mauvaise, oh alors, quel triste compagnon c'était que cet élégant Horatio! Après avoir souri tout le jour de son rire menteur, tandis que la colère et l'ennui lui rongeaient le cœur, c'était une sorte de soulagement pour le capitaine que de se montrer violent, furieux dans l'intimité. Il avait alors vraiment quelque chose de la bête fauve. L'homme qui vit aux dépens de ses semblables a besoin d'endurcir son cœur, car un sentiment de compassion, un atome d'humaine pitié, briserait ses plans les mieux conçus à l'heure du succès. Mais le capitaine ne se montrait pas constamment malveillant envers la femme dont il avait daigné lier le sort au sien. La conscience qu'il avait conféré un très grand honneur à Marianne en lui offrant sa main ne l'abandonnait pas. Il ne fit aucun effort pour élever la pauvre fille ignorante au rang de sa compagne. Il tressaillait lorsqu'il l'entendait bafouiller et s'éloignait d'elle d'un ton maussade en maugréant et en jurant. Mais bien qu'il trouvât désagréable de la voir aussi peu éduquée, il aurait trouvé plus ennuyeux encore de refaire son éducation. Or, l'ennui était une chose pour laquelle Horatio professait une aristocratique aversion. L'idée que son genre de vie pouvait répugner à sa femme, que cette fille roturière et d'une éducation plus qu'inférieure, pouvait éprouver des scrupules qu'il n'avait jamais soupçonnés et connaissait les tortures du remords et de la honte que sa nature grossière à lui ne connaîtrait jamais, ne lui put jamais entrer dans la cervelle. C'eût été en effet une absurdité trop grande que la fille du pauvre Kep affectât une susceptibilité de conscience inconnue aux descendants des Paget. Mary Anne avait peur de son élégant mari, et elle l'adorait et le servait dans un doux silence, gardant le secret de ses propres chagrins et le gardant si bien qu'il ne devina jamais les nombreuses causes de sa pâleur et de son regard maladif. Elle lui avait donné une jolie petite fille aux grands yeux noirs un peu étranges. Elle eût voulu que cet enfant fût l'espoir et la consolation de sa triste existence. Mais le loup n'est point un animal domestique, et un enfant pouvait devenir une entrave dans les évolutions rapides auxquelles le capitaine Paget et sa femme avaient coutume de se livrer. Avant que l'enfant fût âgé de 8 jours, le capitaine publiait une annonce dans un journal quotidien, et moins de 15 jours après, Marianne fut forcée de remettre son trésor à une vieille femme de bel embonpoint, qui avait consenti à élever l'enfant au biberon, dans un misérable quartier très éloigné. Marianne livra l'enfant sans un murmure, avec autant de douceur qu'elle se fût livrée elle-même si le capitaine avait amené à son attention un bourreau masqué dans la pièce voisine. Elle supporta son existence 5 ans environ après la naissance de son enfant, et pendant ces malheureuses années, l'unique effort de sa vie était d'assurer le maigre salaire payé pour l'entretien de la petite fille. Mais avant le 5e anniversaire de l'enfant, la mère mourut subitement. Elle s'éteignit dans une sorte de galta dans les bras de son hôtesse, qui la consolait dans ses heures de misère, comme Mary Ann avait consolé le gentilhomme ruiné. Au moment de sa mort, le capitaine était en prison pour dette, et il fut bien étonné de ne pas la voir le matin lui apporter des petites douceurs, comme elle avait coutume de le faire. Un petit garçon mal tenu et mal peigné, vêtu d'un habit en velours de coton à cotte, vint le trouver dans le parloir de la prison. Ce petit garçon avait reçu ses instructions. Il devait bien faire attention à la manière dont il annoncerait la triste nouvelle au pauvre cher gentilhomme. Mais le petit bonhomme se mit à trembler devant le nez crochu du capitaine et ses yeux gris scrutateurs. Et il raconta sa petite affaire tout d'une haleine, sans la moindre précaution. « La dame est morte à 2 heures du matin, monsieur, et ma mère m'a dit que je devais venir vous en informer. » Le capitaine Paget chancela. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il en tombant sur une pauvre chaise qui craqua sous son poids. « Et je ne savais même pas qu'elle fût malade. » Il sut encore moins que toute la vie de la pauvre créature, depuis son mariage jusqu'à sa mort, n'avait été qu'un long martyre de cœur, une lente agonie faite de honte et de remords.